Oui, bien évidemment, je ne vais pas laisser passer ce dossier sans m'exprimer. D'ailleurs, je ne vois pas comment on peut isoler ce dossier du débat d'orientation qui va suivre. Je vais allègrement franchir les frontières entre ce dossier et le débat d'orientation budgétaire. En fait, la loi nous stipule que nous devons avoir obligatoirement un débat d'orientation budgétaire, et c'est ainsi que chaque année, nous examinerons si l'on met un peu plus sur les collèges, un peu moins sur les collèges, un peu plus sur les routes, un peu moins sur les routes, tout ceci. Ça fait des années et des années que nous tenons ce genre de débat, et ce n'est pas là l'essentiel et le fondamental. L'essentiel et le fondamental, c'est de savoir à quelle source fiscale les contribuables de ce département vont être croqués lors de l'exercice qui est devant nous. Donc je vais exfiltrer du débat d'orientation budgétaire, je ne m'interdis pas d'y revenir tout à l'heure, mais l'essentiel est quand même sur le commentaire qui convient de faire par rapport aux incidences financières de ce que nous décidons. Puisque le DOP est sans vote, ce dossier, lui, est sanctionné par un vote et il a des incidences sur lesquelles je vais revenir. Parce que il faut que les bigourdans sachent que pour eux, en 2014, eh bien, le matraquage fiscal qu'ils connaissent et qu'ils subissent par ailleurs au plan national, ils vont continuer à le subir et à le connaître au plan départemental. Alors, bien évidemment, il y a dans le paquet fiscal qui nous est présenté, le panier qui nous est présenté, il y a un réglementaire pratique qui essaie de continuer les choses. Essentiellement, il y a deux éléments importants. Il y a d'abord un transfert de fiscalité de l'État vers les collectivités départementales. C'est le transfert des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La recette attendue est de 6 300 000 euros. Et ça, c'est très bien, puisque c'est un transfert d'une fiscalité vers le département. Sauf que, immédiatement perçu, ce transfert de financement sera épongé, annulé par, si l'on met en place l'augmentation de ce risque des dépenses sociales, puisqu'on nous annonce déjà, dans le même temps où l'État nous dit, je vous rétrocède ces 6,3 millions au niveau des frais de gestion de la subvention des projets de maladie, il annonce déjà à couleur. Des augmentations qui vont arriver en 2014, puisque le RSA va subir une augmentation de 3,3% et 2% d'augmentation de la fiscalité de la précarité, c'est-à-dire qu'en face des 6,3 millions de recettes, on peut déjà mettre les 5 millions d'augmentation des dépenses sociales. Donc cette recette est d'ores et déjà neutralisée. Mais l'élément essentiel quand même de cette discussion, ça tourne autour du passe-passe que l'on nous présente s'agissant des droits de mutation. Alors d'abord, je voudrais rappeler que c'est une recette aléatoire dont nous parlons. On parle d'une recette aléatoire car on est sûr de rien. Et je dirais même que les éléments d'information que nous avons montre que le marché de l'immobilier est en tassement sévère. Je rappellerai quelque part dans le rapport également, je rappellerai c'est dans le rapport que c'est la page 8 du rapport, c'est que on rappelle ce qui s'est passé les exercices précédents, puisque s'agissant de la LFTO, les recettes ont diminué en 2012 de moins 4,5%. Et donc, le fonds de péréquation de DMTO a diminué de 2,45 millions, soit moins 52% en 2013. Donc, il y a eu tout ceci traduit, le montant des droits de mutation que nous percevons traduit la situation du marché immobilier dans ce pays et dans ce département. Donc, nous savons déjà la sonnette d'alarme est tirée. Ces droits de mutation ont diminué en 2012 et ils ont diminué en 2013. Et pour des sommes non négligeables. Et donc, rien ne permet de dire aujourd'hui que dans la situation de matraquage fiscal que subissent les contribuables, eh bien, le marché de l'immobilier va subir subitement un printemps dans quelques semaines ou dans quelques mois. Il vous est facile de vous informer de la situation auprès des agents immobiliers de ce département pour savoir que la situation est tout à fait à la sinistrose en ce moment sur ce terrain-là. Mais le summum du summum, et c'est là que l'on retrouve le cynisme de l'État socialiste, le cynisme du gouvernement socialiste, le cynisme du président socialiste qui impulse tout ceci, c'est que l'on vous dit, c'est le langage que l'on vous dit, vous êtes confrontés à des augmentations continuelles des AIS. Eh bien, si vous voulez faire face, vous avez une seule solution, c'est d'augmenter les impôts. Parce que c'est vraiment de ce dont il s'agit, cette fameuse loi des finances de 2014, on prend acte, on constate qu'il y a une augmentation des AIS, et cette loi des finances pour 2014, elle dit, mais si vous voulez, pour faire face à ces dépenses, augmenter vos impôts, parce que les droits de mutation, c'est un impôt. Et on vous dit, jusqu'à présent, c'était 3,80%, et si vous voulez faire face aux fameuses AIS, aux dépenses de santé, de l'ARPA, etc., de l'ISA, augmenter, aller à 4,5%. Enfin, qui se moque de tort. Ça me rappelle le dernier débat qu'on a eu ici, au niveau de s'agissant de la circulaire Taubira, qui fixait des quotas obligatoires que les départements devaient assumer et ponger s'agissant des mineurs en situation irrégulière sur notre territoire, des places obligatoires. Ça nous plaise ou non. Bien là, c'est le même cynisme qui s'exprime. On dit il faut augmenter, si vous voulez faire face à vos dépenses sociales, augmenter vos impôts. C'est quand même quelque chose d'abrissard. Et vous vous imaginez que ça allait passer comme ça aussi sans aucun commentaire. Je ne fais pas preuve de la sérénité que vous exprimiez, Michel Pellier, au départ de votre propos, et vous dit, je ne suis pas sûr du tout. Je suis au contraire très inquiet de voir l'évolution, la pente glissante sur laquelle nous sommes. Parce que, effectivement, ce que l'on nous disait, on essayait de le dissimuler dans le texte d'ailleurs, on dit les notaires paieront. Mais ce n'est pas les notaires qui vont payer, c'est les contribuables qui vont payer. Et si c'est indiqué, on rappelle que ça
vont payer chez le notaire.
Et là, ils vont payer chez le notaire, et c'est le contribuable. C'est le contribuable. Mais alors attendez, ça aussi, permettez-moi de rigoler. Parce que vous dites sur une émission de 200 000 euros, ça fait 70 euros par an pendant 20 ans. Mais on peut dire, on peut diminuer à 10 ans, et si on diminuait, si on faisait le calcul par mois, ça ferait 5,80 € par mois. Et si on le faisait par jour, ça ferait quelques centimes d'euros. Et si on le faisait par seconde, il resterait quoi finalement? Ce qui compte, c'est que finalement, c'est 1 400 € de plus que vont payer les gens, les jeunes couples, etc., qui veulent faire l'acquisition d'un appartement ou d'une maison pour se loger. Voilà de ce dont il s'agit. Et ça, évidemment, je ne l'ai lu nulle part. Vous auriez dû mettre cynisme de la gestion socialiste, de l'État socialiste, qui a le toupé, à l'estomac de nous dire, pour faire face à l'urgence sociale, augmenter vos impôts. C'est bien de cela dont il s'agit. Alors, vous imaginez bien que je ne vais pas me prêter à cette manœuvre, à cet enfumage, parce que n'oublions pas par ailleurs que le seul impôt direct qui est à notre disposition, le fonds Sibatti, bien que ce que vous indiquiez par ailleurs que nos taux n'augmenteront pas, mais l'impôt lui augmentera, parce qu'on n'a pas encore connaissance des bases. J'espère que les bases vont évoluer favorablement, parce que les bases évoluent négativement, dans quelle situation serions-nous? Donc les contribuables de ce département doivent savoir qu'également, s'agissant de la fiscalité grecque, leur impôt, certes pas du fait des taux, mais du fait des bases, va augmenter. L'impôt direct va augmenter, et les droits de mutation, qui est une fiscalité grecque, vont augmenter. Donc bien évidemment, je ne peux pas accepter cette proposition et je voterai contre.
Très bien, bon, mais je n'ai pas douté, mais bon, c'est à moi. Ce que je voulais dire tout à l'heure, vous avez dit le fonds de péréquation nationale a baissé. Bon, c'est, le problème, c'est l'application en 2012 de critères d'appréciation sur la richesse des départements qui nous a fait rentrer dans une catégorie de départements qui n'émargeait pas sur le fonds de péréquation. Je crois que cette appréciation a été reconsidérée pour prendre en compte plutôt le potentiel fiscal que le potentiel financier. et faire en sorte que ce n'est pas l'abaissement du fond, c'est plutôt l'application des règles qui, je crois, a été reconsidérée de suite, notamment avec la discussion entre l'ADF et le gouvernement. Jeanne Huillet.
Oui, merci, Monsieur le Président. Juste dire à José Marthe que, effectivement, il a raison, c'est une augmentation sur une taxe, et ça, on ne peut pas le nier. Sauf que ce que je veux lui dire, c'est que cette possibilité, elle est sur l'ensemble des départements de France, du plus riche au plus pauvre, pour alimenter un fonds de péréquation, et ensuite que cette fonds soit redistribuée dans les départements qui en ont le plus besoin. Ça veut donc dire que cette possibilité de porter de 3,8 à 4,5, c'est une possibilité qui est laissée aux départements. Il y a des départements qui sont très riches, qui ne bougeront pas, qui resteront à 3,5. Mais la certitude, c'est qu'on leur prélèvera 0,35. Voilà, ça c'est une certitude. Et que, effectivement, là, l'Assemblée des départements de France a demandé à ce que ce soit 0,7 pour que, effectivement, ce fonds soit plus conséquent et que les départements qui étaient les plus affectés par l'augmentation des AIS compte tenu de leur situation financière puissent percevoir davantage. Nous n'y sommes pas arrivés, ça a été. Le chemin intermédiaire a été à 0,35. Donc, je veux vraiment dire que c'est une solidarité donc, au niveau de l'ensemble des départements, que les départements les plus riches vont contribuer, et que ça, quand même, c'est un élément qui méritait d'être souligné par rapport à la démonstration de notre collègue José. Lui dire aussi que c'est un dispositif qui n'est que transitoire. Il ne durera que 2 ans. C'est juste pour répondre effectivement à l'urgence dans des départements comme les nôtres, où effectivement la montée en charge de ces allocations font qu'aujourd'hui, elle pèse lourdement sur le contribuable au Pyrénéen. Et du coup, là, c'est vrai, il a raison. Enfin, on va prélever 0,35, mais on va verser 1 million dans un pot pour en récupérer 11. Bah, quand même, c'est 11 qu'on va récupérer, c'est autant de moins que ne paieront pas les contribuables départementaux. Donc, je crois vraiment que... je comprends ce que dit José, mais je trouve que là, c'est un peu injuste. Voilà, merci.
Oui, je partage ce qui vient de... dit par Janine, je peux te mettre l'accent sur ça. On pose 1,3 million et on récupère 11 millions 9, c'est ce qu'il faut retenir. Pas les 11 millions 9, pour obtenir 11 millions 9 au travers de la fiscalité, il faudrait mettre 15 points de fiscalité. On croit que c'est quand même l'élément essentiel qu'il faut retenir, parce qu'il y aura des départements qui poseront 1,3 et plus et qui retiendront moins. Nous, on a quand même on est quand même tout à fait gagnant, il y en a qui récupèrent 0 et d'autres qui ne récupéreront pas pour les départements riches notamment. Je crois qu'à la sortie, je persiste à dire que c'est un gain important pour le département qui fait quand même une bonne bouffée d'oxygène pour le département pour une contribution quand même relativement modeste. Frédéric Laval.
Oui, Président, c'est un peu excessif tout de même ce que dit notre collègue José Marthe. Je voudrais lui rappeler 2-3 éléments, et des éléments de comparaison notamment qui malheureusement ne vont pas être positifs pour lui. Alors en 2013, Président, nous avons été l'un des 30 départements de France à mettre un taux de 0% sur le foncier bâti. 40 départements de droite ont fait des taux positifs, Monsieur Marthe. 40. Eh oui. Que n'étiez-vous là pour les critiquer? Je suis déçu, c'est dommage, parce que franchement, on devrait vous enregistrer et les repasser sur place. Quoi. Ça, bon, après, a priori, on peut être différent quand on est ici que quand on est ailleurs. C'est pas de la politique pour moi, ça. Mais bon. Bref. Vous parlez de frais de gestion de 6,3 millions d'euros qui sont donc donnés par l'État et de frais d'action sociale qui augmentent d'environ 5 millions d'euros pour le département, c'est vrai. Mais il faut savoir que aussi, le département est entré dans une phase d'économie importante depuis l'an dernier. Nous avons même réduit sur les dépenses non obligatoires des dépenses pour justement, puisque c'est notre principale dépense ici, l'action sociale, pour justement compenser cette augmentation annuelle inéluctable, vieillissement inéluctable de la population tous les ans de département. Donc nous faisons des efforts nous-mêmes, vous ne pouvez pas faire des additions comme ça, c'est 0,3-5. C'est pas vrai, puisqu'il y a aussi des économies que nous faisons nous-mêmes. Il faut toutes nos directions d'ailleurs. Ensuite, un point sur lequel je suis d'accord avec vous, mais il n'y en a qu'un, je vais vous le dire, c'est les recettes aléatoires des droits de mutation à titre onéreux. C'est vrai, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une certaine prudence dans le dossier suivant concernant ces droits de mutation à titre onéreux, puisque si l'on fait donc une proportionnalité intégrale sur, alors certes seulement 10 mois sur 4,5%, puisque les deux premiers mois restent à 3,8% sur les droits de mutation à titre onéreux, on arriverait à 17,1 millions d'euros de droits de mutation à titre onéreux, que nous avons fixé donc, dans le dossier suivant à environ, je crois, 16,5 millions d'euros. Donc, certes, un petit peu en dessous de l'estimation. Là où par contre, quand vous parlez de sinistre, des augmentations des impôts, là, je vais être un peu rude, M. Marthe, mais la réalité, c'est vrai, c'est sur 200 000 euros, 1400 euros sur 20 ans. Le ramener à la seconde, je suis désolé, il n'y a que vous qui calculez à la seconde ici. Désolé, vous voyez, ça vous a coûté, mais là, tout à coup, là, de vous taire, ça vous coûte cher. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas inquiet. Je vais vous rappeler donc qu'en 5 ans, les gouvernements mis en place par l'ancien président de la République ont augmenté donc la dette de 650 milliards d'euros. Alors, comme vous aimez les proportionnalités, je vais vous rappeler ça par français. Par français. Non, je rappelle l'enquête. Vous voulez des comparaisons. Vous voulez des comparaisons. Vous voulez des comparaisons. Faisons des comparaisons. Faisons des comparaisons. Qu'est-ce que ça fait 650 millions divisé par 60 milliards.
C'est terrible.
Divisé par 60 millions. Monsieur Marc, eh bien, ça fait 11 000 euros par français. 11 000 euros par français. Voilà, voilà, c'est un scandale. C'est un scandale. Où étiez-vous pour vous plaindre de ces 11 000 euros? Combien ça fait à la minute? Hein, monsieur Barthes, 11 000 euros par rapport à
ici, c'est ce cinéma que je ne supporte plus à l'Assemblée. Parce que c'est ça, tu vois.
À
l'Assemblée, c'est ça tout le temps. C'est la droite, c'est le PS qui s'inscrit avec l'UMP sur des trucs comme. Et alors, ça débrouille, après ça débrouille, ils se disent des choses désagréables. Alors qu'en fait, tu peux très bien discuter tranquillement.
Merci, monsieur le président. Je souhaiterais simplement dire que c'est quand même une augmentation de l'impôt aussi. Et que si on calcule, ça fait quand même 9 000 euros pour un achat de 200 000 euros. Voilà. Et je ne suis pas sûre que ça n'impacte pas dans l'esprit des gens qui vont acheter, quelle que soit leur couche sociale. Donc cette recette est aléatoire et pour moi c'est quand même une augmentation de l'impôt. Je ne rentrerai pas dans les polémiques que je vous ai posées. Pourquoi ne débattrions-nous pas, pourquoi ne pas débattre sur une baisse de certaines dépenses comme le sport professionnel?
Oui, on peut ouvrir un débat là-dessus, mais bon, ce n'est pas l'objet du débat d'orientation budgétaire, si vous voulez. D'abord, je ne sais pas comment de calculer 9 000 euros. Comment ?
C'est 4,7%.
Ah oui, non, mais les 3,8, ils existaient déjà. Les 3,8 existaient déjà. Aujourd'hui, le débat il va de 3,8 à 4,5. Bon, c'est là que se situe la marge de manœuvre. Bon, alors, on met rien. Mais de toute façon, on paie quand même 1,3 million et on reçoit pas. Ou on passe de 3,8 à 4,5. On paie 3 et on récupère 11,9. Bon, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut ne pas adhérer à cette démarche. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'elle soit pérenne et qu'elle soit durable. Ce qui me gêne le plus, c'est que c'est sur 2 ans. Et s'il y a une réforme sur la dépendance qui donne d'autres moyens de financement, on se retrouvera à temps pour éventuellement rebaisser les droits de mutation. Mais bon, ça me paraît aujourd'hui pas à l'ordre du jour. Hein. Non, mais ça ne me paraît pas à l'heure du jour. Bon, à moins, il ne faut pas faire du catastrophisme non plus autour des droits de mutation. Bon, on était parti la semaine dernière sur une recette de 15 millions d'euros. Bon, finalement, on a réalisé 16,5 millions. On est quand même dans un département qui n'est pas complètement non plus en crise dans le domaine de l'immobilier. Et je ne pense pas... Comment ? Vous voyez, ça dépend du territoire, ça dépend des endroits, ça dépend des marchés. Moi, je vois aujourd'hui, vous parlez que d'un cas très bien, il y a une résidence en construction à Péragude. Ce qui sera le plus cher, c'est les plus gros appartements, des appartements à 300, 400 000 euros. C'est ceux qui partent en premier, quoique. Maryse Berrier peut témoigner de cette dynamique également sur Saint-Lary, qui se vend le plus cher, c'est les prix. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui est capable de mettre 400 000 euros sur l'achat d'un appartement, bon, après tout, c'est de l'argent qui s'investit dans le département, pourquoi, ben, après tout, c'est pas les droits d'habitation qui vont passer de 3,8 à 4,5 qui vont l'empêcher d'acquérir l'appartement. Pourquoi on se priverait quand même d'une recette? Elle est fiscale, bien sûr, mais c'est une fiscalité indirecte, quand même. C'est pas de la fiscalité directe qui s'adresse à tous les contribuables. Ça s'adresse au contraire à ceux qui viennent investir dans le département. Bon, alors, sachons, raison garder de ce point de vue-là. Bon, après, le débat sur le sport professionnel, ça sera encore un autre débat que nous pourrons avoir au moment du budget. Jean-Claude Bagnier.
Merci, Monsieur le Président. Je vais être bref. Mais c'est vrai que le propos de José Marthe, qui est dans son rôle d'opposant, pas systématique, mais presque, que nous lui connaissons et qui est respectable, par le mot cynisme du gouvernement socialiste, a dépassé les traits les bornes de la qualité du débat démocratique. Parce que s'il y a cynisme dans l'augmentation des impôts, qu'est-ce qu'on peut dire du cynisme de l'augmentation de la dette qu'a évoqué Frédéric Laval à juste titre. José Marthe, la dette, c'est 650 milliards d'euros en quelques années, c'est 11 000 euros, c'est de l'impôt aussi. Simplement, le cynisme, c'est que c'est de l'impôt pour nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Mais c'est eux qui, un jour, par leur impôt, paieront les dettes d'aujourd'hui. Et si ce n'est pas du cynisme, ça c'est moralement le pire des cynismes. Et c'est bien pire que de demander des impôts. Donc je veux que les choses soient claires d'un point de vue du cynisme et de la morale en politique. Deuxièmement, la hausse des DMTO que propose le président et que je soutiens, elle n'est pas imposée par le gouvernement socialiste. Elle est facultative. Et donc le gouvernement socialiste laisse le choix. Et il n'y a pas d'augmentation de cynique des impôts imposés par le gouvernement socialiste. C'est un choix que nous faisons délibérément pour des raisons politiques qui ont été évoquées par les uns et les autres et financières. Pas un impôt transfert obligatoire du gouvernement. Et troisièmement, je reviens sur ce que disait, après ce qu'a dit Frédéric Laval, sur ce que disait ma collègue Janine Dubier, ma double collègue, si je veux dire, à très juste titre. Ce qu'a fait le gouvernement socialiste, c'est ce que nous réclamons depuis des années, c'est-à-dire plus de péréquation. C'est-à-dire la possibilité d'aider plus les départements pauvres que les départements riches. Et à travers ce système, 1 pour 11, qu'a décrit Janine Dubier, 1 million que nous avons payé au titre de cette augmentation des 0,35 et 11 que nous allons recevoir, cette péréquation, mais je veux dire, tout élu des Hautes-Pyrénées, M. Marthe, chers collègues, devrait s'en réjouir. C'est une décision de justice. Alors si vous appelez la justice du cynisme, je trouve que nous avons une vraie divergence politique et même idéologique.
Josette Durieux.
Merci, Monsieur le Président. Bon, José, il est dans son rôle, il a dit vraiment tout à l'heure avec le DOB. Bon, on sait très bien que les socialistes sont cyniques, et ils en fument, ils ont beaucoup toupé et modestement. Alors, partant de là, j'ai envie de dire impôt direct zéro, les droits de mutation, l'augmentation est facultative. Et c'est un tour de passe-passe. Bon, on peut commenter toujours comme on veut. Moi, je veux dire deux mots sur le cynisme de la droite nationale. Je ne reprends pas ce que vient de dire Janine Duguay, donc je vais aller chercher un autre exemple. L'exemple que je prends, c'est sous prétexte que il y a un matraquage fiscal, et on ne nie pas le fait que c'est lourd et que effectivement il faut à un certain moment trouver l'effort ailleurs dans les réductions de dépenses, et on est arrivé effectivement à un taux que nous considérons comme amplement suffisant et lourd. Mais la droite au niveau du Sénat, sous prétexte d'atténuer l'effort fiscal, à tout ce que nous entreprenions dans tous les domaines, elle a mis des amendements que nous avons chiffrés et qui se traduisaient, et le chiffre est vérifiable, par 10 milliards d'euros pour l'État. Ça veut dire que les peu d'économies qu'on essaye de faire d'un côté, eh bien la droite, avec beaucoup de cynisme, et sur l'envers beaucoup de responsabilités, traduisait sa politique au niveau de l'effort fiscal qu'elle voulait atténuer et dont elle clamait la nécessité par une ponction de financement de l'État de 10 milliards. Ce n'est pas une bagatelle. Deuxième remarque que je voudrais faire par rapport à l'immobilier sur le département et au DMTO. Il y a une économie nationale qui est ce qu'il est, avec une situation qui est incontestablement celle que vous avez laissée. Et puis les efforts que nous faisons et qui sont difficiles et qui n'ont pas de façon immédiate les résultats que nous espérons, mais ils viendront. Et il est évident que l'économie de ce pays, il faut qu'elle redémarre. Et si elle redémarre, les choses changeront. Mais l'économie de ce département aussi, José. Et à ce niveau-là, je voudrais dire que le département fait des efforts. Et s'il y a des efforts qui sont faits dans beaucoup de domaines économiques, moi j'ose dire ici à l'instant qu'il faudra qu'on les sente, qu'on les voit et qu'on envoie les résultats sur Tarbes et sur la Lourdes-Tarbaise. Parce qu'il y a une situation sur Tarbes et sur la Lourdes-Tarbaise qui se traduit par un affaissement du département à ce niveau. Tant au niveau de la population qui frémit ailleurs et qui la baisse, qu'au niveau par conséquent de l'immobilier qui baisse, dites-vous, par rapport aux chiffres relatifs importants de 19 millions que nous avons atteints au niveau de la rentrée de ces fonds DMTO, on est malgré tout dans ce département à 16 millions et demi, malgré tout. Ce qui n'est pas si mal, eh bien, j'aimerais qu'on ait une projection, si vous voulez, sur l'ensemble du département, des efforts qui sont faits, et on verrait à quel point nous avons un problème sur Tarbes et sur l'agglomération Tarbes. Et tant que ça ne redémarrera pas en termes économiques, que vraiment nous ayons, si vous voulez, dans ce domaine-là, des efforts qui soient faits réellement, il ne suffit pas de faire, si vous voulez, des améliorations en termes d'urbanisme. C'est important, d'embellissement, c'est important. Tant qu'il n'y aura pas une reprise économique, industrielle, sur ce qui est quand même le point essentiel du département, on n'a pas là actuellement 46 000 habitants par rapport aux 229 000 du département, il n'y a pas de reprise sur l'espace tarpé et en termes immobiliers, nous le payons. Et c'est quand ça redémarrera là qu'un équilibre sera trouvé dans ce département et dans les finances peut-être aussi de notre collectivité.
Merci. François Fortassin.
Oui, merci, Président. Ce débat m'inspire une réflexion, peut-être amusée. Il se trouve que je ne suis pas joueur d'argent. Mais si on m'assure qu'en misant 1 euro, j'en récupère 11, je me précipite immédiatement au casino de Bagnères pour jouer. Alors, je voudrais dire à M. Marthe, il faut savoir raison garder.
Très bien. José Marthe, donc, pour la deuxième fois.
Et si tous les collègues se sont exprimés en ma direction, je vais essayer de leur répondre. Ce débat illustre aussi, outre le cynisme tout à l'heure des socialistes, ce débat illustre aussi l'anomalie démocratique de notre Assemblée. Parce que que ce soit M. Lavagne, M. Carvalho, M. Montpensier, Mme Dulieu, M. Pélieu, tous les parlementaires ici présents, vous représentez 95% ou 96% de l'Assemblée départementale. Effectivement, je suis le seul à ferrailler dans cette Assemblée. Mais vous ne représentez pas 95% de l'électorat de ce département. Et moi, c'est au nom de cet électorat de droite qui souffre, et du centre qui souffre, que je m'exprime. Donc je ne m'estime pas du tout moindre que je aucun de vous, ni à titre individuel, ni à titre collectif.
Personne.
Nombre, mais ça ne m'impressionne pas du tout, quelle que soit la réaction que vous fassiez, ce conseiller-là est une anomalie démocratique. Et personne ne peut dire le contraire. Vous arrogez 95% des sièges et vous représentez combien au niveau de l'électorat? Pas 95% encore. Et je crains que demain, ça va diminuer encore plus. Alors, pour répondre, je peux voir qu'on a tous, mais quand même, notre collègue Laval, lui, fait l'anecdotique, il parle de ce qui se passe dans 40 départements. Moi, je suis de lui, dans le Pyrénées, voilà, donc je m'exprime sur ce qui se passe dans notre Pyrénées. Et lui, Frédéric Laval, comme beaucoup d'autres, font sans cesse référence au passé. En nous rappelant, M. Gavani nous rappelait la dette, bien sûr que je sais que la situation de la dette. Je vous rappellerai, M. Gavani, que la dette, elle a commencé depuis 35 ans dans ce pays. Tout gouvernement confondu, sous François Mitterrand, sous Chirac, tous les présidents, tous les premiers ministres depuis 35 ans ont participé à l'augmentation de la dette. Donc ça, c'est une terre collective. Elle n'est pas imputable seulement au gouvernement de droite. Vous le partagez avec nous, ce fardeau de la dette. Parce que vous avez participé aux prises de décision qui ont creusé la dette. Donc ça, c'est un fardeau qu'on est très long. Sarkozy, rappelons-le, a été battu. Il a été battu, mais ne faites pas toujours retour sur ce que la droite a mal fait. Et je sais que la droite a fait mal dans un certain nombre de choses. Et j'ai la dame plus dure, moi, à la garde de mes amis, pour dénoncer, passer mon expression, les conneries qu'ils ont commises. Alors je peux me permettre donc de me laisser aller quand il s'agit de mes adversaires politiques. Donc, voilà un certain nombre de réponses. Madame Durieux, vous faites là aussi référence à un débat qui ne se passe pas ici au Sénat. Le Sénat, autre anomalie démocratique que vous dénonciez, les minoritaires, autre anomalie démocratique. Qu'attendez-vous pour le supprimer, le Sénat? Vous oubliez le supprimer, la guerre, quand vous n'étiez pas majoritaire. Et là, vous nous renvoyez sur un débat qui a eu au Sénat, en évoquant les 10 milliards d'euros qu'imputeraient les collègues de droite. Mais je me sens pas du tout comptable ni responsable de ce que disent mes collègues du Sénat, même si je peux avoir des affinités politiques par ailleurs. Moi, je vis ici, dans les Hautes-Pyrénées, et je suis dans une collectivité locale. Et ce que vous mettez tous, et Nicole Larrictor a eu raison de le rappeler, mon propos de porter que sur le détail, l'accroissement des droits de mutation, c'est que finalement, ça va faire 9 000 euros. 9 000 euros qu'on coûte aux jeunes, va devoir payer au niveau de l'immobilier, parce que c'est pas cher l'immobilier. Donc vous parliez, Michel Pélieu, tant mieux pour vous, mais tant mieux pour vous. Je m'en félicite, c'est à Ferrari, les choses devront vont aller. Mais à Lourdes, vous citiez un exemple que vous connaissez. Moi, je peux citer un exemple que je connais à Lourdes. La valeur patrimoniale des hôtels n'a cessé de baisser. Et les inondations que nous avons subies, je pense que vous parlez, vous citez ce que coûtait un fonds commerce à Lourdes, objet de piété. Et ce qui coûte aujourd'hui, donc c'est un effondrement de la valeur patrimoniale de ces affaires. Et les droits de mutation.
Il n'y a pas d'autre cause que les droits de mutation.
Oui, non, mais vous parliez, on parle des droits de mutation à l'instant. Donc, les droits de mutation, moi, mon témoignage, c'est de dire que là où je suis, les droits de mutation disparaissent. Voilà, alors, pour faire bref, hein, parce que au nombre, je ne peux répondre que par la brièveté. Ce que vous avez tous omis de dire et de rappeler, c'est que nous sommes déjà le pays au monde où les impôts, les prélèvements publics sont les plus élevés de la planète, où la fiscalité est la plus écrasante qui existe à la planète. Et tous les derniers sondages laissent apparaître que tous les Français, ce qui les inquiète le plus, c'est l'augmentation de la fiscalité locale. La fiscalité locale.
Mais alors.
Donc là, nous sommes dans la fiscalité locale. Et j'ai
pas. Non, 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 non.
Nous sommes dans la fiscalité locale.
Non.
Et bien sûr, puisque vous augmentez les droits de mutation.
Non, on n'est pas dans la fiscalité locale au niveau de la mutation, la fiscalité locale. Non.
Quand j'entends François Hollande, et je laisse de côté tout ce qui concerne sa vie privée, mais lorsque j'entends François Hollande. Je laisse de côté ce qui concerne sa vie privée. Mais je peux en parler aussi, comme tout le monde. Mais je ne parle pas de la vie privée de François Hollande. Je parle de la teneur politique de son propos. Eh bien, il annonce un certain nombre de choses. J'attends qu'il les mette en œuvre.
Parce que s'agissant du millefeuille administratif, qui a été balayé lorsque la gauche a pris le pouvoir, quand il s'agit d'un certain nombre de mesures, de sa conversion subitement à l'offre plutôt qu'à la demande, etc. Bref, on fait grâce de tout ce que François Hollande a dit, détonnant sur le, au niveau de la teneur de son discours politique, et ça, ça m'intéresse davantage que ça, de sa vie privée, je le redis. On va voir ce qui va se passer, puisque les recettes annoncées pour les collectivités locales vont connaître certainement de sacrés coups. Alors moi, je suis convaincu d'une chose, c'est pas un rôle que je joue ici, ou une comédie que je joue, je suis animé de conviction, et je pense que l'argent, il faut le rendre au contribuable, parce qu'il n'y a pas mieux qu'eux pour savoir quelle est la façon dont ils doivent l'utiliser. Et je paraphraserai, pour terminer ce propos, je paraphraserai ce qu'avait dit François Hollande, mon président, eh bien moi, conseiller général d'opposition dans ce conseil général, je ne voterai jamais l'augmentation d'impôts.